Trioradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Clèche, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CPORadio-du-bas.tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Ludovic Beribos, associé d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour Pascal.
Bonjour Patrice.
Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Barras, directeur des achats d'Eiffage. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Patrice.
Après l'école d'ingénieurs de Tarbes et la Kedge Business School, vous arrivez dans le monde du travail dans une très belle et très grande maison, Schneider. Comment avez-vous été reçu à l'époque ?
Moi, je me souviens d'avoir été bien reçu. Alors, c'était le groupe Schneider, mais pas encore le groupe Schneider réellement, puisque je suis arrivé dans une entreprise qui s'appelait Télémécanique. Mm-hmm. Qu'on appelait même la Télémécanique, qui était effectivement une boîte d'ingénieurs dans l'électromécanique, dans l'électricité, qui avait un modèle social qu'ils avaient poussé au maximum avec des petites usines. Donc je suis arrivé dans une petite usine, les usines ne dépassaient pas 300 personnes. Et j'ai souvenir d'un modèle d'intégration, d'un modèle de développement des carrières internes très fort, très marqué. Une entreprise très attachante, mais qui a pratiquement disparu l'année qui suivait, ou dans les 2-3 ans qui suivaient, dans l'intégration avec Schneider, dans l'intégration avec Merlin Gérin, enfin tout ça a formé le groupe Schneider, et effectivement, ça c'est d'autres standards qui ont prévalu par la suite.
Vous pensez, Jean-Luc, que cet accueil qui vous a été réservé à l'époque a orienté votre façon de manager plus tard ?
Ah oui, je pense que c'est important, en tout cas ça a orienté mes choix. C'est-à-dire que suite à cette première expérience, mes choix ont été marqués pour choisir les managers avec lesquels j'allais travailler et le modèle managérial dans lequel je m'insérais. Oui, ça a été excessivement important pour moi.
Ça a été fondateur. Ensuite, vous êtes passé par Arcelor en tant que responsable des achats chez Myriad, Chorus Group. Et en 2004, c'est Eiffage qui vous ouvre les bras. Et donc, en préparant cette émission avec vous, vous me disiez avoir eu là encore beaucoup de chance. Mais à quel niveau vous aviez eu de la chance ?
Parce qu'il y avait un modèle managérial qui était nouveau pour moi. J'avais travaillé dans l'industrie, la construction, et là, en basculant dans la construction, c'est d'autres qualités, d'autres valeurs qui sont mises en avant, et notamment celle de l'entrepreneuriat, qui est très développée. Et je suis arrivé dans une société qui était pas très connue. Enfin, j'étais pas très connu en 2004. C'était pendant la construction du viaduc de Millau. C'était encore un groupe qui était plus connu d'ailleurs pour les marques qu'il comportait, comme Kiri, comme Fougerolles, Appia. Enfin, c'est des marques qui parlaient aux connaisseurs et qui parlent peut-être encore à quelques connaisseurs. Mais le groupe Eiffage n'était pas connu. Et je suis arrivé au moment où il se structurait, où le groupe se construisait, quoi.
Oui, il n'y avait pas de direction des achats groupe encore à l'époque.
Non. D'ailleurs, je ne suis pas arrivé pour créer cette direction achat groupe, mais je suis arrivé pour créer la direction achat de la partie construction, c'est-à-dire de la partie bâtiment et génie civil, qui représentait à l'époque un petit tiers du groupe.
Et aujourd'hui, votre entité, celle que vous dirigez, couvre la totalité des univers d'Eiffage. Justement, quels sont ces univers que vous couvrez ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, la direction achat est une fonction qui dépend du président du groupe et qui couvre l'ensemble des activités, qui sont des activités, ce qu'on appelle Eiffage Construction, c'est toute la partie bâtiment, la partie immobilière, tout l'immobilier, toute la partie aménagement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Eiffage Construction. Puis il y a Eiffage Infrastructure avec une grande partie génie civil, une partie avec Eiffage Construction Métallique, une partie qui est dans le métal, et une partie qui concerne Eiffage Route, où là spécifiquement on y fait le métier de routier. Donc voilà. Et puis dans les activités travaux, il y a encore une autre activité importante qui se développe aussi qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui est la partie Eiffage Énergie Système. Donc là, c'est tout le service autour de l'énergie, toute la partie intégration technique, ça va sur des infrastructures du tertiaire, et il y a toute une partie aussi d'ailleurs sur le chauffage et climatisation.
Dites-moi, dans votre ces activités, oui, absolument. Dans votre activité de directeur des achats, plus précisément, vous m'aviez dit avoir plusieurs chevaux de bataille, entre autres la digitalisation et la relation fournisseur.
Oui, bah on est arrivé à un niveau de maturité intéressant qui permet vraiment de rentrer dans les axes les plus importants de la modernisation. Et la modernisation aujourd'hui, elle passe par l'exploitation et la mise en place et l'exploitation des systèmes d'information. Et la digitalisation offre pas mal d'opportunités. Donc c'est un axe de travail sur lequel on essaye d'avancer vite. Et puis sur le fond, il y a une notion de relation fournisseur qui était importante. On est des intégrateurs globaux. Je positionne des fois en entreprise générale. C'est fondamental de pouvoir avoir quelques partenaires avec des relations privilégiées pour challenger, pour être au top sur l'ensemble des aspects importants, sur l'innovation, sur le développement durable, et même sur les aspects administratifs. Donc oui, la relation fournisseur, c'est un axe important de notre travail.
À ce propos, Ludovic Béribos a quelques questions pour vous, Jean-Luc.
Et bonsoir Jean-Luc. Alors, je me permets d'introduire un petit peu la personnalité de Jean-Luc, parce que tous nos auditeurs ne le connaissent pas. C'est une personnalité assez emblématique hein, dans l'univers des achats. Bah, déjà par son parcours qu'il vient de détailler, mais aussi par ses fonctions récentes comme président du CNA, donc une association extrêmement prolixe dans le domaine des achats, avec un très bel événement dernièrement sur le numérique et le digital. Félicitations à l'occasion, Jean-Luc, c'était vraiment un super retour d'expérience. Plusieurs thématiques sur lesquelles je souhaitais vous interroger. On a parlé d'innovation, de RSE, c'est les thèmes sur lesquels j'ai des questions. La première, notamment en matière de sous-traitance, votre secteur implique une vigilance accrue en matière de sous-traitance fournisseur. Quelles sont les exigences que vous avez chez FH pour piloter la relation avec ses fournisseurs ?
Effectivement, cette partie-là est importante. Donc, il y a une partie légale, donc ça, c'est bien le minimum à faire. Mais il y a de plus en plus la capacité à gérer l'ensemble du risque. Donc, avoir une vision, ce qu'on appelle une vision à 365 sur les fournisseurs, c'est s'être assuré de sa capacité à nous accompagner, à prendre place dans nos exigences de développement durable et de RSE, par exemple. Sa capacité aussi à rentrer dans nos systèmes digitaux. C'est aussi quelque chose d'important qui va être, à mon avis, assez structurant sur la base fournisseur, parce que c'est pas juste simplement administratif, c'est une autre façon de voir, de gérer les appels d'offres, de gérer le risque, de gérer les informations. Donc voilà, oui, ça passe à peu près à travers ça. C'est, somme toute, assez classique dans cette partie-là, puisque ce sont souvent des outils, quelques outils spécifiques, mais aussi des outils du commerce qu'on va acheter. Hein.
Oui, je me doute. Côté innovation, vous êtes effectivement sur un métier sur lequel il y a beaucoup d'innovation dans votre secteur. Je voulais savoir de quelle façon la direction des achats contribuait à capter de l'innovation chez les fournisseurs.
Eh bien, à travers différentes choses qui sont... Ça peut être du sourcing. Voilà, et on a un sourcing qui est ouvert. On a construit une plateforme qui s'appelle Sequoia, qui est une plateforme à laquelle on a invité quelques-uns de nos meilleurs partenaires. Et sous l'égide de la direction du développement durable, on partage là un certain nombre d'innovations carbone. Et on les partage avec Le Grand, avec Saint-Gobain, enfin avec les quelques-uns qui nous accompagnent autour de cette plateforme pour essayer d'accélérer les mises en œuvre. Donc ça, c'est une façon, c'est du sourcing très ouvert. Il s'agit souvent de petites entreprises qui viennent se présenter dans cette plateforme, qui viennent présenter leurs solutions. Et là, on découvre des nouvelles choses. Et puis, il y a toute une partie aussi de cette innovation, et les deux ne sont pas antinomiques, qui vient de nos fournisseurs habituels avec lesquels on partage nos projets, on a un échange assez complet, et on s'assure qu'on travaille sur des développements communs, objectifs, dont on sait que c'est des éléments importants pour demain.
C'est très clair. Merci en tout cas pour ces précisions sur le volet innovation. J'en ai une dernière sur la digitalisation. On a observé pendant cette période Covid hein, qui n'est pas encore terminée, une véritable accélération des projets de digitalisation, notamment dans les processus achat des entreprises. Vous avez donc brillamment, j'ai écouté votre intervention, animé un atelier sur les marketplaces dans le cadre de l'activité récente du CNA. Pourriez-vous nous indiquer donc quelles sont les réflexions que vous menez chez FH, vous, sur ces sujets de digitalisation et votre vision en particulier sur ce que peuvent amener les marketplaces auprès des directions achats?
Alors, pour moi, c'est un des outils. Hein. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que il y a d'une part l'ensemble du processus achat qui se digitalise, donc autour de la gestion des appels d'offres, autour de la gestion de dossiers techniques, autour du partage d'informations dans des groupes multicompétences, comme ce dont on a besoin autour d'un projet. Donc là, il y a des outils d'e-sourcing efficaces, dont le problème d'ailleurs n'est pas tant l'outil que l'appropriation par les équipes et par les fournisseurs. Il y a évidemment toute la partie e-procurement, et dans la partie e-procurement, il y a les places de marché. Je pense que elles ont leur place, c'est une réalité. Elles permettent pas mal de perspectives pour les achats. Moi, j'ai toujours géré les achats comme une petite entreprise au sein d'une plus grande entreprise. C'est vrai d'un point de vue managériel et c'est vrai un peu aussi au niveau business. Et les marketplaces, c'est pour des gens très commerçants, pour des gens qui ont une orientation business. Ça ouvre de belles perspectives, voilà. Donc d'ailleurs, je ne connais pas toutes. Je pense qu'on va apprendre en marchant, d'ailleurs, avec ces produits-là.
Les questions de Pascal Leroy, à présent.
Merci. Alors, lors de la préparation de cette interview, vous évoquiez l'évolution du monde des achats et la transition des achats vers plus d'expertise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et puis en même temps nous préciser quelles sont les priorités du groupe, en termes d'achat, quelles sont les priorités aujourd'hui?
Probablement qu'il y a aujourd'hui, on le voit d'ailleurs quand j'ai la chance de présider le CNA, et on voit qu'il n'y a pas une seule communauté des acheteurs homogène. Il y a plusieurs communautés au sein de cette grande famille. Effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui sont spécialisés dans l'implémentation, dans la mise en place de processus, dans l'optimisation de ces processus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus orientés techniquement et qui apportent des spécialités d'expertise technique, d'expertise marché. Et puis on peut passer entre les prestations intellectuelles. C'est un type d'achat qui est aujourd'hui traité de façon très différente, tous ceux qui traitent des matières premières, etc. Donc on voit bien ça, et quand je parlais d'expertise, c'est probablement ça qu'on met en avant. C'est qu'aujourd'hui les directions achats, les services achats ont des compétences très diversifiées, quoi. Et je pense que ça va continuer. Alors vous y rajoutez maintenant tout ce qu'il va falloir au niveau de l'analyse des data, au niveau de la prise de data. Donc je pense qu'on va avoir des directions moins homogènes que ce qu'on a eu dans les années 90 ou même au début des années 2000, où il y avait un profil acheteur qui était identifié, voilà, qui avait fait une spécialité dans les achats, je pense que ça, on va en sortir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure votre activité aujourd'hui est impactée par la période économique un peu compliquée dans laquelle on s'engouffre? Je pense notamment à la partie immobilier. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur... quelles seront les conséquences pour vous au moins la prochaine année?
Je veux bien savoir toutes les conséquences. Et je ne suis pas l'expert... je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment d'experts là-dedans. Oui, ça aura des conséquences forcément au niveau du business. Ça en a déjà quelques-unes, mais nos métiers sont assez robustes. La façon dont une entreprise comme Eiffage gère ses clients, gère ses marchés, c'est quand même une gestion où la robustesse, la prise de risque est déjà géré, quoi. Même quand ça va bien, on peut imaginer que ça pourrait aller moins bien. Donc voilà, donc il y a cette prise en compte très très pragmatique, très réaliste. Il y a une proximité des clients, une capacité à servir le marché sur différents aspects, les travaux services par exemple, qui sont des travaux pour accompagner les usines à se transformer, ou pour sur toute cette partie là on comprend que ça c'est une partie qui va exister, qui va plutôt être plus importante. Bien entendu, les équipes se préparent à ce qu'il y ait des marchés peut-être qui soient temporairement un peu moins bien, hein, sur du tertiaire, sur des bureaux. On peut imaginer que les bureaux, ça va être vu. Mais là aussi, on travaillait déjà des modèles de bureaux partagés, un certain nombre de choses qui nous permettront en partie d'anticiper. Donc je crois que un groupe comme le mien a quand même cette énorme avantage de pouvoir jouer plusieurs cartes. Et donc de jouer sur plusieurs tableaux et d'ajuster. Et on est présent sur les grandes infrastructures, on est présent sur le Grand Paris, on peut être présent sur des très gros chantiers d'infrastructures en Europe, d'ailleurs, voire en Afrique. C'est un marché qui pourrait se comporter assez robuste dans une période de crise. Mais on est aussi très présent dans le service, dans la proximité. Donc on va essayer de profiter de notre positionnement.
Jean-Luc, pour sortir un petit peu du monde des phages et être un petit peu plus personnel, côté livre, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre goût immodéré pour Étienne Klein, le fameux philosophe des sciences ?
Oui, ça fait partie de mes lectures du moment, on va dire, oui, de ce qui m'a intéressé ces dernières années, qui m'a marqué. Non, il y a une volonté, peut-être pour moi, parce que je me sens en partie un peu perdu face à tout ce qui se présente et toutes les ouvertures qui se présentent, et j'ai besoin de chercher à comprendre, voilà. Donc je reviens sur des fondamentaux pour faire la part des choses, celle qui est objective, celle qui est factuelle, celle qui l'est moins, celle qui est du domaine des opinions. J'aime être à l'aise sur cette partie-là.
En tout cas, c'est une lecture que vous nous conseillez vivement. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette interview. À très bientôt.
Merci à vous. Merci à vous.
Merci, Ludovic. Merci, Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, sur nos comptes LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de cporadio.tv, une production b2b-radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.